on a un invité spécial. Nous recevons le docteur François Lalonde, qui est ostéopathe, qui a fait son doctorat en sciences de l'activité physique à l'UQAM. Et on est super contente là, de le recevoir aujourd'hui. Salut François.
Bonjour, enchanté.
Dis-moi, François, là, pour que les gens un peu te connaissent mieux, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement.
Oui, ben, c'est une super bonne question parce que ça donne justement cette session-ci que j'enseignais à temps plein au cégep. Puis c'est toujours une place justement qu'on cherche un peu qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Fait que veux, veux pas, ça te ramène un peu toujours à cette question-là. Donc, pour répondre à la question, mon cheminement, ça n'a pas été un chemin linéaire. Puis je rajouterais à ça aussi que j'étais pas toujours l'étudiant parfait, là, qui a toujours des bonnes notes. Donc, j'étais un étudiant très moyen, disons. Secondaire, cégep. Bon, ça a pris du temps avant.
La moyenne, c'est bon d'habitude?
Ouais, c'est bon, mais je veux dire, mettons, j'avais pas les notes pour rentrer dans des programmes hautement contingentés, disons, à cette époque-là. Là, donc, voilà. Bref, fait que, ça a pris du temps un peu avant de choisir ce que j'allais faire. Puis, tu sais, je trouve que avec du recul, ce que je me rends compte, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce qui fait en sorte que maintenant, je me considère comme quelqu'un d'assez cultivé, peut-être. Je sais pas si c'est ça.
Avec le temps.
Ouais, c'est ça, avec le temps. Non, mais c'est ça, au début, tu dis, ouais, je suis perdu. Oh, non, finalement, je suis peut-être juste curieux. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que là, mes études, ils ont été. C'est ça, au début, pour donner une idée, j'avais fait au cégep une partie en musique. Là, fait que là, pour me rendre compte que j'avais pas vraiment de talent en musique et que j'aurais pas pu poursuivre à l'université. Là, c'était ça mon but en premier. Par contre, les études médicales m'ont appris une chose fondamentale. Ça, c'est c'est ce qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment l'assiduité au travail, la pertinence, puis vraiment d'être obligé de pratiquer à tous les jours. Fait que contrairement à d'autres cours en musique, devant l'examen, tu es un à un avec ton prof. Fait que si tu n'as rien fait, ça ferait.
Oui, exact.
Tu peux pas te fondre dans la masse.
Non, c'est ça. Tu peux pas te fondre dans la masse. Fait que ça a été vraiment une belle leçon de vie. Bref. Ça pour dire, après, là, j'ai fait ma kinésiologie à l'Université de Montréal. À la fin de la kinésiologie, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre pour la santé, pour la recherche. Puis c'est là que j'ai dit, ah bon, mais là, ça me tente vraiment de continuer, puis qu'est-ce que je peux faire, t'sais? Donc, c'est un peu à ce moment-là là, que l'idée vraiment de la recherche là, est implantée, mais je me sentais pas tout à fait prête. Là. Fait que là, c'est là que je vais regarder justement pour des programmes en ostéopathie, puis tout ça. Donc là, j'avais débuté mon cheminement en ostéopathie, justement. Vraiment avec l'idée, dans ce temps-là, j'étais peut-être naïf, là, mais de faire de la recherche en ostéopathie, parce que quand j'allais dans les réunions de rencontres, là, pour les nouveaux étudiants, mais mm-hmm. on m'expliquait beaucoup là, l'aspect recherche puis tout ça, puis c'est vraiment ça là, qui m'avait attiré puis à vouloir poursuivre. Là, fait que c'était vraiment ça là, mon gros moteur.
Mais au-delà du fait là, que c'était la recherche qui t'intéressait,
ouais.
Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'ostéopathie au-delà d'avoir choisi une institution versus une
autre? L'ostéopathie, bon, ben, juste pour revenir à ça, ben, j'ai eu la chance, je ne sais pas si ça peut être une chance, là, de me blesser souvent dans la vie. Et donc, j'ai eu quand même des luxations d'épaule récidivantes avec des opérations. En fait, j'ai connu assez rapidement la physiothérapie. Plus tard aussi, justement dans l'université, là, je m'étais blessé quand même au bas du dos là, en faisant là, des deadlifts là, en entraînement. Là, bref. Fait que là, je consultais beaucoup en chiro à l'époque. Puis c'est, ironiquement, c'est mon chiro qui m'a convaincu d'aller en ostéopathie. Parce qu'au début, moi, je voulais aller en chiro. À l'époque, là, c'est ça, il disait que bon, les chiro, il y avait une mauvaise presse, puis tout ça. Puis là, il voyait qu'il était un petit peu bon, frustré un peu de sa situation. il voyait que tout le monde allait plus en ostéopathie. Il semblait un peu trouver son compte à travers ça. Puis il me dit, franchement, là, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la chiro dans l'ostéo. Fait que, il dit, François, tu sais, point de vue simplicité là, pour ta carrière, je te conseille vraiment d'aller en ostéo. Puis en plus, tu ne seras pas obligé d'aller à Trois-Rivières ou aux États-Unis. Bon, à l'époque, c'est quand même un bon deal. Puis j'avais beaucoup d'amis aussi en kinésiologie là, qui migraient vers l'ostéopathie. Là, ça fait que c'est vraiment populaire. Fait, à cette époque-là, j'avais une forte influence là, pour aller en ostéo. Fait que c'est ça qui a surtout fait de mon choix là, pour aller là au départ. Là.
OK, donc une combinaison d'influences professionnelles,
ouais, c'est ça. Puis,
de blessures sportives.
Exact. Puis je me disais, ah, ben, je me suis blessé. Puis moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était vraiment comment moi je vais pouvoir aider les autres aussi qui présentent des blessures. Fait que c'était vraiment ça l'idée de base là, au début. Là. C'est pas plus compliqué que ça.
OK, ouais. OK. Est-ce que au travers de ce processus-là, quand tu as débuté l'ostéo, finalement, tu as continué tes études ou ton cheminement au niveau des études supérieures?
Oui, c'est ça. Fait que c'est à travers les études en ostéopathie que tu sais, je disais les années préparatoires, que c'était vraiment, tu sais, des cours de sciences, là, ça, j'ai adoré, là, les, tu sais, tous les cours de base, puis tout ça, neurologie, tu vois, c'est vrai qu'il y avait plusieurs aspects, tu sais, qu'on n'avait pas toujours vu ou autant approfondi en kinésiologie. Donc ça je me rendais compte que j'aimais vraiment ça. T'sais. À la rigueur, je pense que j'aimais plus la science de la santé, la médecine en général, que l'ostéopathie elle-même, là, avec du recul. Fait que c'est ça. Fait que là, ça m'a vraiment aidé. Mais sauf qu'après, quand je suis arrivé dans les premières années d'ostéopathie, vraiment, là, qu'on apprenait les techniques et tout ça, c'est là que j'ai commencé un petit peu à décrocher graduellement. du cursus, malheureusement. Pour plusieurs raisons. Là, parce que là, par ma curiosité, j'étais le genre d'étudiant qui j'achetais tous les livres originaux en anglais, puis je les lisais tous en dehors des cours. Fait, ça m'a permis de voir que. Un peu de comprendre ce que les enseignants essaient de nous transmettre en français, mais de manière décousue. Puis là, je lisais les choses originales, puis je voyais qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Puis là, ça a comme créé une grosse spirale, là, que je me suis senti vraiment frustré.
OK.
Mais vraiment une grosse frustration. Puis après ça, quand je me suis dit, bon, mais si je ressens cette frustration-là pour la pratique, qu'est-ce qu'il y en a de la recherche? Puis là, c'est là que j'ai réalisé que c'était pas la prétention que ça avait d'arriver à des publications, puis un volet là, de chercheurs comme que je le voulais. Alors, pour combler ce vide-là, ben, c'est là que je me suis réinscrit aux études supérieures en physiologie de l'exercice à l'Université de Montréal.
Okay.
Non, mais vraiment, l'optique de chercheur, c'était, pour moi, ça a toujours été, ben, si je reviens à l'optique du chercheur, c'est, encore là, j'aime ça toujours venir à... En arrière pour un aveugle chemin. Bon, je sais que mon histoire.
Savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être banal, mais bon. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, pour moi, tu sais, je veux dire, mes héros, c'était des professeurs. Dans le sens, c'était Dr. Peter Venkman de Ghostbusters, c'était Dr. Indiana Jones. Tu sais, pour moi, un chercheur, puis un prof d'université, c'était quelqu'un de cool qui enseignait son cours, mais après ça, tu sais, il allait faire de l'aventure.
Il découvrait des choses.
C'est ça, fait que là, il allait combattre des méchants, puis là, il revenait, puis bon, dans le cas des Ghostbusters, il combattait des fantômes. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était ça, là, pour moi, être un chercheur, là, puis prof d'université. C'était vraiment ça, mon idée. Fait que, bon, c'était ça l'idée de base. Et après ça, c'est plus sérieusement, là, c'est mon oncle, plus tard, que lui, mon oncle, c'était André Lalonde, docteur André Lalonde, qui était le doyen de la Faculté des sciences à l'Université d'Ottawa. Ça a été lui ma vraie source d'inspiration plus tard. Il m'a vraiment dit, tu sais, François, ça vaut la peine de faire des études supérieures, de bien les faire, d'aller loin, puis surtout, au bout de la ligne, tu sais, fais ce que tu aimes, pense-en avec passion, puis tu sais, sois toujours un petit peu là, à l'affût là, pour partager, là, si on veut, là, tes connaissances. Fait que vraiment, tu sais, c'est lui qui m'a...
Ton oncle a été ton moteur, finalement.
Définitivement, mon oncle André, qui est malheureusement décédé. Il y a un pavillon, d'ailleurs, à l'Université d'Ottawa qui est en son honneur. Fait que vraiment, André, ça a été mon modèle de vie puis de carrière. Puis j'ai toujours aspiré un peu à ce qu'il a fait, là.
Quand tu es allé, justement, là, quand tu es allé retourner aux études supérieures, donc tu es allé faire ta maîtrise,
ouais.
Ton doctorat, tous à la même place, pour les mêmes projets?
Oui, tout à la même place, puis j'allais vraiment, c'était à l'Université de Montréal. Fait, moi, j'allais là avec l'intention d'apprendre à faire de la recherche et non vraiment d'apprendre sur un sujet spécifique. Fait que oui, veux pas, le sujet spécifique vient avec la recherche, mais moi, mon intention, c'était vraiment d'apprendre à faire de la recherche pour après l'appliquer à n'importe quoi. Fait que c'était vraiment ça, mon mindset. Fait que c'est dans cette optique-là aussi que ça a fait que j'ai pu, après, travailler un peu plus en ostéopathie. Là. Mais c'est ça, là, c'était vraiment là, c'est quoi la méthodologie de la recherche, comment je fais, puis oui, je vais avoir mathématiques, que je vais être un spécialiste, là, qui est le préconditionnement ischémique.
Donc ça, c'est ton axe de recherche principal.
C'était mon axe de recherche principal au doctorat, puis que j'ai fait aussi un peu au postdoc. Mais tu sais, c'est ça, fait que là, j'ai appris la modalité de la recherche, puis après ça, de l'appliquer à d'autres sphères. Puis c'est surtout ça, la grosse leçon là, que j'ai appris de ces
cheminements. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec le préconditionnement ischémique, est-ce que tu pourrais peut-être un peu élaborer sur ce
ben
c'est quoi?
Tu vois, c'est drôle, parce que en entraînement, souvent il y a des modes, fait que souvent, tu sais, un peu comme en ostéopathie, hein, je veux dire, c'est pas tout qui est démontré scientifiquement, puis je veux dire, la science est en retard sur bien des choses, fait que c'est sûr que si on se suit toujours à la science, ben on fera rien. Mais bon, ça c'est dit, le préconditionnement ischémique, c'était une méthode qui était surtout utilisée en cardiologie au départ. Là. C'est fait que souvent, au début, c'est avec les études animales. Là. C'est fait que là, ce qu'ils avaient observé, c'est que, mettons qu'il y avait un infarctus du myocarde, Fait que là, c'est si il faisait un clamp au niveau de l'aorte, donc il empêchait, il créait une espèce de d'ischémie avant d'avoir le dommage au niveau du myocarde, donc à plusieurs répétitions, donc ischémie, réperfusion, souvent 3-4 cycles, mais il se rendait compte que le dommage cellulaire était beaucoup moindre. Fait que ça, c'était vraiment là, ce qui a lancé, si on veut, ce domaine de recherche-là. Après ça, ça s'est étendu un petit peu plus en clinique. Fait que là, il faisait dans des chirurgies cardiaques, il utilisait le préconditionnement ischémique. Donc, quand on était dans ce contexte-là, ben, il prenait un brassard, tout simplement, pour prendre la pression artérielle. On coupe la circulation, soit sur les jambes ou sur le bras. Fait que là, après, l'effet systémique va envoyer là, différents facteurs là, de...
hormonaux, j'imagine.
Hormonaux, neurales, fait que mm-hmm. c'est vraiment varié pour créer une forme de cardioprotection post-ischémie. Alors ça a été beaucoup utilisé justement en chirurgie. Puis là, évidemment, dans le monde sportif, on essaie toujours de trouver la prochaine chose pour augmenter ses performances sportives. Donc on s'est dit, si je faisais ça avant mes performances de sport, est-ce que ça va vraiment m'aider? Donc ce qui avait surtout lancé, c'est un peu c'était hype là, c'est qu'il y avait une étude qui était sortie, puis tu sais, encore là, c'était un petit case report de 15 patients. Il a fait un préconditionnement, donc il a pris un brassard, il l'avait mis sur les jambes d'un participant, il avait fait 4 cycles d'ischémie et réperfusion avant un test de VO2, donc tout simplement. Puis là, ils ont observé que ça augmentait la VO2 max de 3,5%, ce qui est énorme. Là, ça peut correspondre peut-être à 3 mois d'entraînement. Là. Donc, bref, fait que c'est ce qui avait un peu lancé tout l'intérêt, si on veut, dans cet axe de recherche-là. Puis j'étais un des premiers, tu sais, je veux dire, quand j'avais commencé mon doctorat, il y avait peut-être 4 articles écrits là-dessus. Donc, tu sais, on était les premiers à écrire là-dessus, mais aujourd'hui, là, ça pleut, là, ce sujet-là. Je veux dire, j'étais plus souvent à réviser des articles. Récemment, j'ai révisé une thèse de doctorat de l'Université Laval, d'une étudiante qui avait étudié sur la même thématique. Fait que, tu sais, ça a vraiment découlé sur cet aspect-là. Donc, le préconditionnement ischémique, évidemment, je l'ai utilisé dans un contexte de performance sportive, mais aussi je l'ai utilisé dans un contexte de réadaptation cardiaque. Comme là, justement, on a un article qui vient d'être accepté. Ça, c'est un projet de postdoc avec mon étudiante Sarah Maud Martin qui est à la maîtrise. On a utilisé le préconditionnement ischémique chez des patients en insuffisance cardiaque. Donc, mm-hmm. On leur faisait faire du préconditionnement ischémique avant un test de marche de 6 minutes. Fait que là, on observait justement si ça l'améliorait les performances ou non. Puis, chose à dire, c'est que depuis le début, là, moi, je trouve seulement qu'il y a des résultats négatifs. La majorité de mes publications, c'est des résultats négatifs. Fait que si tu me demandes d'être en faveur du préconditionnement ischémique, ma réponse est non, en ce moment, sur le terrain. Fait que, vous voyez, la clash entre la science puis le terrain. T'sais.
Donc, la science, c'est pas toujours pour prouver que quelque chose marche?
Non, exactement. Moi, j'aurais aimé ça que mes résultats soient positifs, honnêtement, mais non.
On voudrait toujours.
Oui, je pense que c'est assez humain.
Ça n'a jamais été le cas. Puis, je veux dire, j'ai jamais eu de problème à publier mes articles non plus, au contraire. Fait que, mes études maintenant font partie de certaines méta-analyses ou certaines revues systématiques. Puis évidemment, on pèse toujours le pour et le contre. Mm. Puis encore là, la mathématique de recherche est encore très mitigée. Là, je veux dire, l'amélioration de VO2 max que je vous avais décrite au début, là, ça s'est observé une fois. Il n'y a jamais d'autres études qui ont reproduit ça par la suite. Alors, c'est différents mécanismes puis différentes choses qui sont adaptées à la performance. Mais il y a encore peut-être du monde qui trouve des petites améliorations, d'autres un peu moins. En fait, encore là, c'est toujours cibler sa clientèle, c'est quand on fait notre intervention, etc. Pour moi, cette technique-là, ça se transpose très bien à une technique d'ostéopathie, par exemple. Je veux dire, c'est...
Mais justement, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par « ça se transpose très bien à une technique d'ostéopathie »
Ben, je te donne un exemple simple. Souvent, j'ai des questions d'étudiants en ostéopathie qui ont des... je ne sais pas comment appeler ça, des travaux de fin de session là, que souvent certains appellent, j'imagine, des mémoires ou des thèses. En tout cas, bref, c'est ces travaux-là de fin de session, j'en ai souvent des questions qui on me dit, mais mettons, si je fais telle technique ostéopathie, est-ce que ça va augmenter le VO2 max, par exemple? Ben oui, c'est légitime à se poser comme question, c'est légitime à faire comme protocole, mais tu sais, je veux dire... c'est un peu comme le préconditionnement ischémique. Là. Je veux dire, ça va-tu vraiment marcher? C'est pour dans quel contexte, etc.? C'est quelle technique que tu vas utiliser? Puis bon, bref, c'est pas simple à déterminer. Puis même VO2 max, c'est aussi arbitraire. C'est toutes les cinétiques de consommation d'oxygène, comment utiliser aussi ton appareil de mesure en soi, ça prend aussi beaucoup de connaissances. Puis juste ça, on peut extrapoler plein de choses. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, ça pour dire que si je... Dans mon cas, j'avais utilisé une technique de préconditionnement ischémique avant des efforts, mais j'aurais pu faire le même genre de projet avec une technique ostéopathique. Là,
mais justement, comment tu chemines ou comment tu portes les deux casquettes? Parce qu'on sait très bien qu'il manque beaucoup de données probantes en ostéopathie. Ouais. C'est considéré comme une médecine alternative et complémentaire. Donc, comment ton cerveau de chercheur, qui est vraiment comme plus raisonné, plus cartésien, jongle bien avec parfois des méthodes ou des explications en ostéopathie qui peuvent parfois paraître... bon, pour certains,
plus empiriques.
Plus empiriques,
c'est...
puis exactement.
Ben, écoute, je pense que c'est une question à plusieurs volets. Faudrait quasiment que tu me reposes, parce que là, mon cerveau donne dans tout plein de sens. Mettons, je commençais avec le jongler avec les chapeaux. Après ça, qu'est-ce que justement, comment que la science peut peut-être éclairer là, certains aspects de l'ostéopathie, disons. Bon, pour premièrement, jongler les chapeaux. En ce moment, je dirais que... récemment, là, j'ai fini un contrat comme chercheur de 4 ans avec l'Agence spatiale puis la Défense nationale. Là, j'ai encore une étudiante qui est à la maîtrise, justement, qui travaille avec l'armée. Bon, fait, je vais plus par contrat. Là, donc, des fois, je suis un petit peu plus clinicien, des fois, je suis un petit peu plus chercheur, des fois, je suis un petit peu plus enseignant, là, dépendamment là, de ce qui se présente comme emploi. Mais ça reste que, fondamentalement, je veux dire, en ostéopathie, quand j'ai mis mon chapeau de chercheur en ostéopathe au début, le premier article que j'ai publié, c'était en ostéopathie. C'était à l'époque dans la revue de Dr. Jean-Guy Scott. Donc, c'était en ce temps-là, il y avait l'ostéopathie précisément, qui était une revue là, qui... Je pense que cette revue-là, c'était bien pour le Québec à ce temps-là, parce que ça permettait de donner une chance aux étudiants, là, expliquer un peu leurs travaux, là, justement, là, qu'ils faisaient de fin d'études. Donc, ça, c'était,
comme
je trouvais ça...
leurs informations, comme
c'est
qu'est-ce qu'ils avaient
trouvé. Ça, je pense que c'était vraiment pertinent pour ça. Mais sauf que ça reste que cette revue-là, c'était pas une revue révisée par les pairs, c'était pas une revue non plus... qu'on pourrait qualifier là, de scientifique. Mais tout de moins, c'est une belle revue professionnelle. Puis, en tout cas, bref.
Un bon point de départ.
Oui. Puis, tu sais, je veux dire, ça serait une très bonne idée que ce genre de revue-là revienne éventuellement. Puis, tu sais, que ce soit une revue professionnelle, je pense que c'est plus simple qu'une revue purement scientifique. Bref. Donc, j'ai écrit mon premier article dans le journal de Jean-Guy à l'époque. Puis, c'était justement la différence entre les ostéopathes québécois et les ostéopathes américains. Parce que dans mes lectures, je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis c'était cette chose-là qui ne marchait pas. Quand je disais toutes les choses en anglais, là, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, ah, OK, eux, c'est vraiment une autre affaire que nous. Là, c'est pas...
Et si tu élaborais justement sur cette autre chose que nous...
Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que là, je parle vraiment du milieu américain. Là, je n'extrapole pas en Europe puis dans d'autres pays. Là, mais c'est ça, aux États-Unis, c'est que en anglais, quand tu appelles un médecin, tu vas l'appeler un physician. Puis les physicians, ça, c'est ton médecin de famille ou ton spécialiste, peu importe. Alors, ce physician-là peut porter deux titres. Il peut être soit un MD ou un DO. Fait que là, dans ma tête, pourquoi ce DO-là, ils prescrivent des pilules, ils font de la chirurgie. Puis, un moment donné, j'avais fait l'Ironman au Lake Placid, puis j'étais fait héberger par un médecin de Lake Placid. Puis après ça, il était tout content de me voir, puis il voulait m'inviter dans son hôpital. Il disait, oh, this guy, he's a DO, you know? Puis. Non, mais j'ai pas de licence. Là, oublie ça, je peux pas venir pratiquer dans ton hôpital.
C'est ça, moi, je peux pas faire une chirurgie. Là.
Non, mais c'est ça, parce que là, il voulait aussi m'inclure dans l'équipe médicale après, tu sais, pour genre prendre des
c'était prises beau, de sang, mais trop t'sais. Beau.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'était comme. Bon, tu sais, ça aurait pas marché de toute manière parce que j'avais pas de licence médicale anyway, pour pratiquer au Québec ni aux États-Unis. Mais bon, je veux dire, juste le concept était. Je l'avais trouvé drôle, puis mais ça m'avait choqué parce que je me suis dit, ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce que dans sa tête, là, je suis vraiment un médecin, puis quand je reviens au Québec, c'est pas ça, là, c'est pas ça pantoute.
Non, notre réalité, vraiment.
Mais c'est ça, puis je me suis vraiment questionné, puis j'ai même écrit au collège des médecins, j'ai dit, c'est quoi, là, cette histoire-là, là, des ostéos, puis tout ça. Puis ils m'ont répondu, ben là, dans notre je m'en rappelle, j'ai encore le courriel de, je me rappelle plus, le président à l'époque, il m'avait réécrit, puis dans les règlements de... comment t'appelles ça? Le Collège des médecins. Oui, c'est ça. Ouais. Le Collège des médecins. Bon, mais il y a une clause là-dedans qui reconnaisse le diplôme d'ostéopathie américain pour pratiquer la médecine au Québec. Je dis, ah, intéressant. Je dis, mais est-ce qu'il y en a au Québec? Ils m'ont dit non. Jamais eu de ça. Par contre, il y a une clause
Donc, le règlement existe.
Et oui, le règlement existe, puis il n'y en a jamais eu. Fait que là, je trouvais ça comique. Fait que là, bon, OK, j'ai continué mes recherches. Qu'est-ce qui se passe au reste du Canada? Fait que là, c'est là que j'ai tombé sur en Colombie-Britannique, une autre province, qui vont vraiment mieux légiférer ça. Puis surtout en Colombie-Britannique, qui, eux, ils ont fait vraiment des protections pour protéger les duos US, là, entre guillemets. Fait qu'il y en a, tu sais, dans d'autres provinces. T'sais. Puis probablement qu'un des faits qu'il n'y en a pas au Québec, tu sais, avec réflexion, ça doit être simplement le barrière de la langue, tu sais, parce qu'ils n'ont pas pu faire des tests. Puis à rigueur, je ne sais même pas s'ils auraient même pu garder leur titre DO versus si ils auraient été convertis en MD. Alors, fait que ça a été vraiment, vraiment le, je dirais, le choc. Fait que là, bon, c'est ça qui m'avait drivé à écrire cet article-là là, sur la différence entre les ostéos américains et puis québécois. Fait que par la force des choses, en constatant cette différence-là, mais c'est vraiment, aux États-Unis, c'est enseigné dans les universités, là, ça. Là. L'ostéopathie, fait que, si je ne me trompe pas, je pense que c'est à peu près 26 universités. Bref, il n'y en a pas tant que ça, mais ça reste que, bon, c'est renseigné dans les universités. Donc, à l'université, par la force des choses, il y a de la recherche. Par la force des choses, ils vont enseigner des choses qui sont un peu plus…
ils ont du développement clinique, de compétences, de connaissances. Tu sais, tout ça, c'est quand même des choses qui font grandir une profession plus rapidement.
Exactement, exactement. Fait que ça, c'est ça. Puis aussi, d'un point de vue scientifique, tu sais, fait que le level de la recherche en ostéopathie, là, beaucoup aux États-Unis. Puis c'est là que je me suis intéressé au journal le GIOL, donc le journal indexé sur PubMed de l'association là, des ostéopathes américains. Alors, fait que là, c'est ça. Là, j'ai comme été un petit peu… piqué par ça. Puis je me suis dit, bien là, je continue mes recherches parce que là, je peux pas… Puis là, au début, je me trouvais fou parce qu'à chaque fois que j'en parlais avec mes collègues étudiants ou avec tout le monde, on me traitait toujours de…
Mais les collègues étudiants étant pas ceux que tu côtoyais à tes études supérieures?
Non, je parle quand je dis collègues étudiants qui me… C'était plus en ostéopathie là, à l'époque. Parce que là, j'essayais de leur raisonner. Je disais, j'essayais de… C'est moi ou je suis fou? T'sais, parce qu'au début, je pensais vraiment que j'étais fou, mais… Mais là, je dis, au bout de la ligne, je pense que ça n'avait pas l'air à vraiment déranger le monde non plus, honnêtement. Là, je pense que ça me dérangeait plus que moi que les autres.
Là, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas. Notre cursus et le cursus de là-bas est complètement différent. Le type d'enseignement aussi, ou le système d'éducation est complètement différent.
Exact.
Peut-être que ça va créer quelques barrières qui n'existeraient pas dans un autre contexte.
Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, cette barrière. Puis, tu sais, fait que moi, je l'ai vraiment vu comme un moteur, justement, de recherche. Fait que là, après ça, là, j'ai vraiment commencé plus à lire, à essayer de comprendre. T'sais, fait que je me considère pas comme un chercheur en ostéopathie parce que, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est de la due diligence. Là. j'ai pas fait de gros projets. Là. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est essayer d'écrire dans des journaux scientifiques des communications. Là. Fait que, tu sais, ça a été des case reports, des petites revues de littérature, des opinions. Mais tu sais, ça n'a jamais été des gros projets de recherche là, dans, que je qualifierais d'envergure. Là, mais bref, j'ai essayé d'initier justement cette culture de recherche-là parce que je me disais, comme chercheur clinicien, ben, pour moi, c'était important, c'était une valeur. Fait, je veux dire, c'était indissociable de faire de la clinique sans avoir le pied dans la recherche. Je veux dire, pour moi, ça faisait pas de sens. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à essayer d'écrire. Puis l'un des premiers articles que j'ai écrit après, c'était dans la revue Dire de l'Université de Montréal, qui est une revue quand même révisée par les pairs. C'est sûr, c'est pas indexé sur PubMed, mais c'est quand même révisé par les pairs. Puis là, j'ai eu peur là, quand j'ai dit ça. J'ai dit, bon, là, ça va être une bombe, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je me mets toute la communauté ostéopathique à dos, je pense, que chose que j'ai faite. Je l'ai bien réussi pour ça, mais c'est pas dans le but d'être méchant. Je pense que t'es…
Mais souvent, quand on pose des questions, ben, ça peut déranger certaines personnes.
Ou aussi, quand on dérange les fondations qui sont là depuis un moment, qu'il y a tellement de gens qui ont adhéré et qui croient, au-delà de la compréhension, ça fait toujours mal un peu, là, soit à l'ego ou
le nommer. Puis c'est ça, puis je comprends ça que ça fait mal, parce que moi aussi, ça me faisait mal de l'écrire. Là, je veux dire, moi aussi, j'ai mis… beaucoup de temps, d'argent, d'efforts dans toutes ces études-là. Puis, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, je pense pas que l'ostéopathie est dangereuse pour les patients. Je pense que c'était à cette époque-là, dans mon opinion, c'est plus dangereux pour les étudiants. Fait que, dans le sens que, tu sais, justement, tant d'argent, puis aussi se faire dire des, bon, on va dire le mot gentil, peut-être des semi-vérités, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui était dérangeant. Fait que quand j'ai publié cet article-là à l'Université de Montréal, le lendemain, j'ai eu beaucoup de… Mon directeur de doctorat, il y a eu beaucoup d'appels de monde en ostéopathie qui était très insulté. J'ai eu des courriels aussi pas mal de...
Incendiaires.
De haine. Mais ça n'a pas duré longtemps, à ma grande surprise. Puis avec le temps, je me suis dit, bon, mais il y a quelqu'un, c'est enfin qui va me répondre. Mais on est en quoi, 2022 bientôt, puis il n'y a personne qui m'a encore répondu de manière logique. Et je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. J'étais sûr que j'allais avoir des réponses scientifiques. Mais non, je n'ai jamais eu, à part des débats Facebook. Bon, je ne rembarque pas là-dedans, mais un vrai débat sur le fond, je n'ai jamais eu accès à ça. Puis après ça, ça m'a ouvert à d'autres publications. Alors, j'ai publié dans le GOA, dans l'E-Jump. Puis à chaque fois, je me suis toujours, par curiosité, j'ai demandé toujours à l'éditeur, est-ce que je suis le premier Québécois qui publie ici? Puis on m'a toujours répondu oui. Et je dis, mais voyons donc. Moi, je publie des petites affaires, c'est pas de la grosse recherche. Je dis, ça n'a pas de sens. Là, tout le monde se vante de faire de la recherche, puis c'est moi le premier qui publie. Je trouvais ça un petit peu cocasse.
Bien, je pense que, tu sais, comme n'importe quelle ouverture, ou comme on va revenir à ton processus, ton cheminement qui ouais. est plutôt pas linéaire, mais tu sais, des fois, quand on est des impurs.
Oui, des impurs.
Bien, ça commence par ces petites affaires-là. Fait que, tu sais, ouais. de dire que tu contribues pas avec la grosse affaire, je pense que ça serait pas rendre justice à qu'est-ce que tu apportes au quotidien, en fait. Là.
Ouais, ben tu sais, à vrai dire, pis t'sais, honnêtement, je veux dire, je pense que, ben là, on va te le dire entre nous autres, parce qu'on c'est à vous que, mais tu sais, c'est en vous rencontrant l'année passée, toi, Isabelle, Anaïs, puis en m'invitant aujourd'hui, que c'est la première fois depuis 10 ans là, que je fais ça, que je sens que quelqu'un s'intéresse à ce que j'ai fait, ou que je sens que j'ai une parcelle d'appréciation. Puis c'est sérieux, parce que pour vrai, ça m'a, pendant plusieurs années, affecté lourdement psychologiquement, là, parce que je me sentais vraiment exclu, je me sentais pas un vrai stéréopage, je me sentais pas ici, je me sentais pas dans le mainstream de la pensée. Puis s'il y avait personne qui était là pour me seconder, là, ça a été dur. Puis honnêtement, d'être invité ici puis de pouvoir m'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec moi, ça, je m'en fiche un peu, mais je trouve ça bien, puis je trouve ça bien de vous avoir rencontré là, aussi, là, ça me permet là, de m'exprimer.
Ben, c'est
ça.
Une des raisons pourquoi on fait ça. Hein? tu le sais, quand on fait, on est dans le domaine académique aux études supérieures, un des enjeux, c'est de vulgariser, communiquer, qu'est-ce qu'on fait. Parfois, les canaux, ils sont pas tous ouverts. Puis surtout en ostéo, ils sont pas tous ouverts à nous, là, en général. Là.
Puis on est isolé aussi, des fois, aux études supérieures.
Oui, souvent, c'est vrai qu'aux études supérieures, c'est beaucoup des étudiants qui sont dans l'isolation, de par la nature du projet ou de par la nature de la voie empruntée, en fait. Mais si je peux rebondir là, sur le fait que tu t'es senti tout seul... moi aussi, là, je suis comme une impure, puis autant aux études supérieures qu'en ostéo, je me fais toujours dire que j'ai pas ma place dans les deux camps, en fait. Donc, je pense que c'est assez légitime là, de la manière que tu te sens. Mais ceci étant dit, tu sais, Anaïs et moi, on est vraiment contentes de pouvoir contribuer à justement que un peu, tu sais, faire rayonner là, ce genre de truc-là. Peu importe qu'est-ce que la personne a fait, en fait, que ce soit petit ou gros, que ça soit légitime ou non. Tu sais, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter dans cet univers-là. Puis, en fait, l'ostéo, on a justement l'option de la faire grandir encore plus. Il y a un potentiel d'amélioration énorme. Fait que c'est juste à notre avantage, dans le fond.
Ouais, c'est de l'énergie potentielle, finalement.
Ah, ouais.
Ben oui.
Mais t'as encore le style point, là.
Mais j'avoue que je m'identifie vraiment beaucoup à ton expérience, là, parce que moi aussi, je pense que mon cheminement ressemble un peu au tien, dans le sens où moi, j'étais en recherche dès mon baccalauréat, puis ensuite, j'étais allée en neurosciences, puis j'ai divergé vers l'ostéopathie. Puis, même chose, je me posais énormément de questions sur certains fondements, sur certaines applications, puis... J'ai fait mes études en ostéo. Moi aussi, je considère comme une impure. Et ça, ben, je suis retournée faire des études, mais là, vraiment, avec un lien plus ostéopathie, douleur, neurosciences, des axes de recherche m'intéressent. Mais je vois bien comme cette réflexion qu'on peut avoir au travers les études en ostéopathie, ou même, je pense, peut-être des étudiants en ostéopathie se posent déjà la question. Puis c'est légitime de réfléchir sur comment on enseigne les choses, comment on la pratique, puis comment on peut la faire évoluer. Je pense que c'est tout à fait légitime.
Oui, puis c'est intéressant comme conversation, ça, parce que justement, je pense que les étudiants en ostéopathie, je veux pas, c'est les longues études à un certain point, puis il peut se passer bien des choses pendant ces années-là. Et c'est normal que les gens évoluent, se posent des questions. Puis dans mon cas, ça a été une obsession, une question axée sur la recherche. Mais tu sais, d'autres personnes prennent des cheminements des fois plus ésotériques peut-être dans leur cheminement. Puis tu sais, bon, je ne pense pas que c'est bon ou mauvais, là, mais c'est juste... j'ai remarqué que notre profil, le profil scientifique, était moins peut-être... présent, peut-être?
C'est sûr qu'on ne se le cachera pas, puis je ne pense pas que c'est identifiable seulement au Québec.
Ouais.
Mais je pense que, tu sais, en ostéo, il y a beaucoup, une grosse partie encore qui est sur des éléments empiriques.
Oui, exact.
Et que ces éléments empiriques-là, ils ne sont jamais challengés dans, ouais, dans leur fondement.
Exact.
Et quand on le fait...
C'est mal vu.
C'est mal vu.
Ben, c'est ça. Puis c'est là un peu ma philosophie, tu sais, je veux dire... Pour moi, c'est correct de connaître l'histoire, la philosophie de l'ostéopathie. Mais à un moment donné, c'est get over it. Là. Je veux dire, il y a plus que 26 universités aux États-Unis. Il y a combien de DO à travers le monde actuel? Pourquoi on ne parle jamais? T'sais? Ces gens-là, ça, des fois, ça, je me pose vraiment la question, pourquoi toujours s'enraciner dans un passé de la guerre de sécession aux États-Unis? J'ai de la misère,
ouais,
un peu
avec ça. Même, je pense que, tu sais, avec ce qu'on sait présentement, même cette histoire-là de guerre de sécession, comme tu dis, elle a été mal vulgarisée, mal transportée dans le temps. Il y a des éléments qui ont été un peu modulés par rapport à ce qu'on voulait là, leur faire dire. Mm-hmm. Je pense que c'est légitime, là. Pour finir sur ce thème-là, c'est légitime, qu'est-ce, ouais, que tu fais? Puis si ça a pris 10 ans pour en arriver jusqu'ici... Ben, ça aurait pris 10 ans, tu sais.
Ouais, puis tu sais, puis non. Ouais, puis j'ai une renouvelle lueur d'espoir, là, ça m'a redonné la motivation. Puis là,
on est de plus en plus à aller aux études supérieures. Là. Il y a, ouais, vraiment, on voit là, au cours des 2, 3, 4 dernières années, là, au Québec du moins, là, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui se lancent dans l'aventure, mais aussi qui commencent à réaliser que c'est peut-être pas au travers des institutions ostéopathiques, mm-hmm, qui vont pouvoir faire un projet. Il y en a des bons projets de recherche.
Oui, oui, je sais.
Il y en a des
pas.
Idées qui sont vraiment, qui ont été bien menées, mais le pourcentage où que ça soit présent est peut-être moins là.
Ou que ça puisse être utilisé.
Ou que ça peut être utilisé, ouais, et utilisable.
Non, mais c'est ça, ce qui est triste, c'est là. C'est, je pense que tu viens de donner le point, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans ces... Toutes les étudiants ont des bonnes idées. Je pense aussi que pour rendre justice aussi à les superviseurs de ces projets-là aussi, ils font un excellent travail. C'est juste où que ça devient triste. C'est que ces projets-là deviennent tablettés dans ces écoles privées-là. Mmh. Ils ne voient pas la lumière du jour. Fait que c'est pour ça qu'au début, quand on parlait de la revue Ostéopathie précisément, mais au moins ça donnait une vitrine. Fait que si on ne publie pas dans une revue professionnelle ou scientifique, ben, je veux dire, ton travail de recherche, entre guillemets, va être indexé dans ton école privée puis il va rester là.
Puis ça permettait de valoriser un petit peu là, aussi le travail et l'effort que les,
ouais,
étudiants,
exact,
avaient fait.
Exactement.
Puis pour aller sur un autre point, en fait, récemment, on a entendu Entre les branches qu'il y aurait une belle parution d'un article qui concerne le TOG dans le American Academy of Osteopathic Journal avec Pascal Grelot et Tim Sparrow.
Oui.
D'où est venue l'idée de parler du TOG, qui est souvent des techniques enseignées dans les premières années en ostéopathie, puis souvent même pratiquement oubliées. On les oublie très facilement.
Et pourtant, c'est les techniques que j'utilise le plus dans ma pratique clinique.
Je suis d'accord avec toi.
On en parle très,
ouais,
peu.
C'est vrai, Anaïs, tu as raison. C'est des techniques qu'on voit en début de cursus souvent. Puis là, après ça, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme oublié.
C'est beaucoup plus le fun de faire du crânien, du viscéral, plein de normalisation.
Mais c'est plus créatif.
C'est plus créatif, on va le voir comme ça. Mais pourtant, le TOG, donc pour ceux qui ne connaissent pas le traitement ostéopathique général, ben, pourquoi faire un article là-dessus? Puis on sait là, que l'article n'est pas paru encore, là, donc si tu peux nous parler de certaines choses par rapport à ton idée partir sur un sujet comme ça, d'où vient l'intérêt?
Ouais, c'est une très bonne question qui ouvre encore un petit peu une explication historique, là, désolé pour ça. Mais oui, aussi juste peut-être avant de rebondir à ça, moi j'ai vraiment une très grande passion pour ces techniques-là de base, qui sont souvent enseignées dans les premières années, puis c'est souvent ces techniques-là que j'utilise beaucoup aussi en clinique, donc le TOG, le strain counter strain, le muscle energy, fait que c'est vraiment des choses simples qui sont, je ne sais pas pour quelle raison, oubliées au profit des deux techniques en tout cas d'un point de vue scientifique, qui ont peut-être moins de
fondement.
De fondement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'utilité clinique, ce n'est pas ça mon point, là, mais quand on parle d'approche evidence-based, ça me semble être les derniers choix là, en apprenant cette philosophie-là. Mais du moins, on ne reviendra pas là-dessus. Pour le TOG, alors, c'était un projet de longue date, justement, quand j'étais en ostéopathie. Écoute, ça va être drôle, on va en reparler tantôt, mais mon enseignant de TOG, c'était René Pelletier à l'époque. J'ai adoré ce cours-là. Fait que, je disais qu'au début, j'étais un petit peu frustré, mais le cours de TOG, disons que ça commençait bien, l'ostéopathie. J'ai vraiment adoré cette technique-là, au point tel que, un peu comme je disais, j'allais lire les documents, puis j'achetais tous les livres en anglais. Mais sauf que là, j'arrive pour acheter un livre en anglais, ça n'existe pas.
Ah oui, il n'y a pas de livres.
Oui, il y a des livres en anglais, mais moi, quand je dis anglais, je parle d'États-Unis, mais il y en a en Angleterre. Mais les États-Unis, dans l'Educational Council of Osteopathic Principles, donc l'ECOP, qui vont régir toutes les techniques ostéopathiques, le TOG n'est pas une technique ostéopathique, selon eux. Ça n'existe pas dans leur cursus, le TOG. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que c'est un peu ça l'idée de mon article, c'était de présenter le TOG aux Américains comme potentiellement une technique ostéopathique potentielle qui pourrait éventuellement être enseignée ou utilisée dans leur cursus. Alors, fait que là, dans mes lectures, c'est ça, évidemment, je suis tombé sur le livre de Françoise et Mathis, là, qui était en français. Bon, encore là, toute cette littérature-là, vraiment, qui vient de France, souvent la lacune d'avoir peu ou pas de références sérieuses d'un point de vue scientifique. Fait que là, je me suis retourné à peu près à l'origine de tout ça, qui était justement là, en Angleterre. Fait que même chose aussi, c'était plus des vieux livres écrits, plus ou moins de références scientifiques. Fait que là, je dis, bon, OK, fait que là, par où que je commence? Fait que là, j'ai appelé Zachary Comeau. Fait que Zachary Comeau, je ne sais pas si vous connaissez.
Malheureusement, moi non. Ne le connais pas.
Bon, Zachary Comeau, c'est un des ostéopathes américains qui, lui, a vraiment pris le profil thérapie manuelle. T'sais, fait que c'est un ostéopathe, entre guillemets, qui travaille comme nous. Puis il a écrit plusieurs livres aussi. Fait que Zach Comeau, ça, c'est comme vraiment un auteur prolifique là, en ostéopathie. Puis lui, c'est pas nécessairement tout scientifique. Il a fait des articles scientifiques, mais il a fait beaucoup aussi de livres là, philosophiques, des livres de techniques, de toutes les techniques oscillatoires qui pouvaient s'apparenter peut-être un peu au TOG. Fait que là, j'ai contacté Zachary Comeau, puis à ma grande surprise, il a accepté de travailler avec moi sur l'article de TOG. Et j'ai dit, oh!
Okay. Intéressant quand
Zach
même.
Zach Comeau, puis pour moi, Zach Comeau, c'était comme, wow, c'était comme, c'était l'ami de Jean-Guy Scott, Zach Comeau, en thérapie manuelle, en ostéopathie, c'était le king.
C'était un big deal.
Ouais, je sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui, mais, mais c'est ça. Fait que là, Zach Comeau, on a commencé à travailler. Fait qu'on a travaillé peut-être un an ensemble sur l'élaborer, l'article. Puis après ça, là, Zach, il était de son côté, lui-même, lui, il était barré. Il dit, ben là, François, il dit, ça nous prend vraiment l'opinion des gens United Kingdom, du Royaume-Uni, qui vont pouvoir nous dire c'est quoi les vraies origines du TOG, parce que c'est vraiment là que c'est parti. Puis là, on est un petit peu barré, là, il nous manque d'informations. Fait que je dis, parfait. Sauf que j'en ai jamais trouvé. 10 ans plus tard.
Oh!
Fait que là, évidemment, j'avais d'autres projets de recherche, fait que ça a un peu tombé aux oubliettes. Puis c'est là que j'avais tombé sur justement Pascal Groslot, qui avait étudié justement au Royaume-Uni, puis Tim Sparrow, qui aussi était un étudiant là, direct là, de la lignée de Warnham, là, puis de toute c'est l'historique théogienne, si on veut, de toute cette lignée-là. Alors, eux, ils ont pu aller chercher le petit gap là, qui manquait là, dans l'article pour aller chercher notre explication. Là, parce que souvent, tu sais, une TOG, il peut être galvaudé par une simple technique de mobilisation passive, là, peut-être. Là. On est vraiment allé dans l'aspect historique. On a épluché aussi la littérature, voir bon, c'est quoi la science là-dessus. Puis, tu sais, il n'y en a pas encore une fois. C'est une technique qui n'est pas très documentée non plus. Puis, quand elle est documentée, bon, mais est-ce que c'est vraiment le TOG comme on entend comme technique ou c'est le traitement ostéopathique général dans sa généralité, tu comprends? Fait que la distinction n'est pas toujours claire. Fait que c'est ça. Fait que là, on a vraiment fait tout le screening de ça pour présenter ça vraiment dans un contexte américain, donc pour que les Américains soient à l'affût, si on veut, du TOG, qu'ils comprennent un peu leur origine, puis à savoir, en quelque sorte, bon, est-ce qu'ils seraient intéressés peut-être que ça devienne une technique officielle dans leur cursus éventuellement.
Donc, c'est les Canadiens qui apprennent aux Américains, en fait, cette partie-là.
Ben, dans ce contexte-là, oui. Oui, c'est rare, mais c'est... Ben, tu sais, je veux dire, les ostéos américains, comme je disais tantôt, maintenant, c'est plus du monde essentiellement de thérapie manuelle, là, c'est plus des... des médecins, mais ça reste qu'il y en a quand même un bassin qui vont pratiquer la thérapie animale comme on le fait. Là,
mais au-delà du fait que tu visais la population américaine ou la population de DO américain, est-ce que c'est avantageux ou c'est avantageux pour la population ostéopathique québécoise, française de prendre connaissance de ce document-là?
Oui. Je pense que c'est un beau document, là, justement. Là. Je pense que, en fait, c'est un document qui est excellent pour tout cours de première année qui sont enseignés de TOG. Je pense que c'est une belle référence à ajouter au cours là, pour ceux qui enseignent le TOG. Définitivement, là, un article à mettre. C'est juste que le problème avec ça, encore une fois, c'est écrit en anglais. Donc, il faut lire en anglais pour le décortiquer. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas en lisant l'article que tu apprends à faire la technique nécessairement. Tu apprends son fondement, son historique, un peu son background scientifique. Ça met la table, disons. Mais après ça, pour la pratique, ben là, ça, c'est la job des enseignants de le faire. Mais je pense que oui, c'est vraiment un bel article là, qu'on peut tous le bénéficier. Puis, ben, tu sais, je veux pas, ça nous fait rayonner. Fait qu'encore à eux, je leur ai demandé, est-ce que je suis le premier Québécois ou Canadien? On m'a dit oui. Bon,
okay. Ben, félicitations.
Ben oui, vraiment, bravo. Là,
Ben, tu sais, puis il faut se rappeler aussi de la AOG, tu sais, c'est un peu le journal secondaire du GIOA. Là, tu sais, donc, le GIOA, c'est plus scientifique, si on veut, mais la AOG est scientifique professionnelle. Tu sais. Fait qu'il est un petit peu moins...
Il est plus ciblé vers le clinicien.
Mais surtout vers les cliniciens qui s'intéressent vraiment à l'ostéopathie comme thérapie manuelle. Pas juste à l'ostéopathie au sens médical. Là,
ben, dis-moi, là, justement, tout à l'heure, tu as parlé que bon, il y avait René Pelletier, qu'on salue d'ailleurs, et qu'on espère peut-être recevoir, on ne sait jamais.
C'est comme un appel, hein?
C'est comme un appel.
René, viens-t'en.
Donc, tout à l'heure, justement, tu as dit que c'était René Pelletier qui t'avait donné les cours de TOG.
Oui.
René Pelletier, que l'on sait, qui a été engagé par l'Agence spatiale canadienne comme, dis-moi si je me trompe, là, mais c'était comme ostéopathe, là, je pense.
Oui, exactement.
Puis je pense que tu as contribué à cette embauche-là, si je ne me trompe pas.
Oui, j'ai fortement contribué.
Tu pouvais nous expliquer un peu, là, justement, ta contribution là, à l'Agence spatiale canadienne et à l'embauche de René.
Oui, OK, c'est bon. Ben, pour faire une histoire courte, ça, j'étais embauché là, pour au niveau de la Défense nationale. Après ça, j'ai été... En anglais, on appelle ça en second man, donc en détachement, si on veut, à l'agence spatiale. Fait, j'étais comme prêté à temps plein pour l'agence spatiale, bon, pour effectuer certains projets de recherche, mais aussi surtout pour m'occuper de la mission de David Saint-Jacques, qui a été sur la station spatiale dernièrement. Donc, un de mes rôles principaux dans la mission de David Saint-Jacques, de mon côté, c'était de... surtout le support là, tout en exercice. Fait que, l'exercice pré-mission, pendant la mission et post-mission. Il faut ça qu'on comprenne aussi la réadaptation et tout ça. Là. Alors, c'est vraiment le volet là, exercice avec une spécialité dans la physiologie de l'exercice là, qui était surtout mis de l'avant là, pour la mission de David. Donc, ce qui est arrivé, c'est que comment ça marche pour les astronautes? C'est que, bien, évidemment, eux sont plus à la NASA. Fait qu'ils sont plus, la majorité de leurs temps sont aux États-Unis. D'ailleurs, à la NASA, beaucoup de flight surgeons, donc des médecins de vol, sont des DO.
Ah ouais?
Mais ils ne font pas de thérapie manuelle. Hein?
Non.
Fait que là, on avait des DO là-bas. OK, parfait. Fait que là, puis aux États-Unis aussi, à la NASA, c'est que eux là-bas, pour une raison que j'arrive pas encore à comprendre aujourd'hui, c'est que ceux qui vont s'occuper d'exercices durant l'entraînement, c'est surtout des kinésiologues. Il n'y a pas de physiothérapeute ou très peu. Donc, fait que c'est vraiment des kinésiologues. Puis c'est un peu... ça qu'on a reflété à l'agence spatiale. Fait que quand je travaillais, il n'y avait pas d'autres thérapeutes là, que moi et ma collègue en activité physique. Puis il y avait aussi les deux médecins de vol. Fait que, bref, pour faire une histoire courte pour l'ostéo, c'est que là, ma supérieure, ben elle avait débuté ses études en ostéopathie. Elle avait une bonne connaissance de l'ostéo. Puis elle s'est dit, ah ben là, vu que ça serait peut-être une idée d'apporter un volet de thérapie manuelle pour le... justement pour nos astronautes. Fait que là, l'idée a été lancée. Fait qu'évidemment, ça s'est vite confronté à la validité scientifique de la chose. Fait que là, j'ai été quand même mis dans le comité pour essayer de présenter ça à l'équipe médicale. OK, ben là, tu sais, oui, l'ostéo, c'est ce qu'on peut faire. Ça pourrait être intéressant dans notre cas pour ça. Sauf que là, évidemment, il fallait trouver un profil qui allait fitter avec, avec les astronautes. Fait que ça, c'était le gros challenge. Fait que là, ben, tu sais, encore là, c'est pas en voulant faire un jugement de valeur, mais là, un de mes mandats, ça a été de faire une shortlist puis tous les critères qui seraient pertinent pour avoir un ostéopathe avec nous.
Parce que j'imagine que les astronautes sont exigeants.
Ben oui,
autant vers eux-mêmes que vers leur équipe.
Ben c'est ça. T'sais, je veux dire, tu regardes juste David Saint-Georges, tu sais, lui, il est médecin, ingénieur, il a un doctorat en astrophysique. Et puis, tu sais, je veux dire, en fait, j'aurais mal vu quelqu'un d'ésotérique venir travailler avec David. Mais bon.
C'est peut-être juste pas la mentalité non plus, là.
Ben, c'est ça. Fait que, donc là, on a vraiment mis des critères de sélection assez précis. Là. Puis, fait qu'un des, je dirais, les volets, là, les, bon, sans rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout dire, là, mais c'est sûr qu'il y avait mis de l'avant là, tout l'aspect, si on veut, de travail en sport ou en activité physique, parce que bon, la nouvelle nomenclature pour les astronautes ou les militaires ou les pompiers, les policiers, etc., c'est que maintenant, on appelle ça des athlètes tactiques. Ça se ressemble beaucoup maintenant à des athlètes professionnels. Donc, c'est juste leur approche est différente d'un athlète professionnel. Fait qu'en entraînement, ça fait un gros changement. Donc, l'idée, c'était d'approcher notre astronaute comme un athlète tactique. Alors, fait que là, on voulait un ostéopathe qui se connaissait surtout en sciences de l'activité physique, puis aussi qui avait un background scientifique. Fait que là, quand j'avais ma shortlist, ben là, j'avais pas beaucoup de noms, évidemment.
Elle était short.
Elle était short. Alors, évidemment, là, j'étais allé chercher une couple de candidatures, puis après ça, j'ai participé là, aux entrevues. Donc, c'est moi qui ai fait les entrevues. Après ça, j'ai du côté donner mon opinion là, pour chacune des entrevues, puis pour finalement avoir le résultat que vous connaissez, là, l'embauche de René. Puis, belle collaboration aussi avec René durant la mission. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis pour moi, c'était drôle de tantôt, je parlais avec René, il m'avait inspiré pour le TOG, mais là, c'était drôle de me remettre dans la chaise que là, c'était moi qui intervouais.
Qui a renvoyé la balle.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas, lui, il me connaissait peut-être pas à l'époque, mais moi je savais très bien c'était qui. Puis je sais que René, ça, il avait fait, il terminait son doctorat là, à ce moment-là aussi. Là, donc, voilà, c'est fait que il a fait une très belle impression, puis aussi, je pense, une très belle description de l'ostéopathie, puis de comment elle peut être utilisée aussi dans le monde spatial. Là, donc.
Ben, on sait que tu as aussi publié, en fait, un article sur la pédagogie de l'ostéopathie,
Oui. Qui
était problem-based.
Oui.
Comment vois-tu, on en a parlé un petit peu tantôt, mais comment tu vois l'enseignement de l'ostéopathie au Québec, puis en fait, comment on pourrait l'améliorer ou comment on pourrait vraiment développer ça?
C'est une très bonne question, ça. D'accord. Encore là, bon, cet article-là, l'origine de cet article-là, c'est, ben là, vous commencez à me connaître, là, quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de faire un article, donc.
on commence à voir le profil.
Okay, c'est fait, bien. Là, fait que là, j'avais comme fait le micro-programme de troisième cycle en pédagogie universitaire à l'Université de Sherbrooke, parce que, tu sais, à l'université, oui, on enseigne, mais je veux dire, on ne dit pas comment le faire, puis on n'est pas des très bons pédagogues. Fait que là, je me suis dit, comment je vais faire pour être un petit peu meilleur, puis pour être moins plate. Alors voilà, fait que j'allais m'inscrire dans ce cours-là. Puis d'ailleurs, j'étais avec, pendant que je suivais ce cours-là, j'étais en même temps que Chantal Morin, que je salue.
Salut Chantal!
Écoute. Fait que c'est ça. Fait qu'en faisant les cours, évidemment, ben là, on avait différentes approches pédagogiques qu'on étudiait, dont l'approche par problème. Alors, j'ai dit, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de publié en ostéopathie là-dessus? Non, parfait, c'est ma chance. Fait que j'ai combiné ce que j'étudie, j'ai essayé de créer un article avec ça, puis c'est ce que j'ai fait. Alors, elle a été publiée dans le eJUM.
C'est beaucoup la philosophie aussi de l'Université de Sherbrooke. Hein? Tout ce qui est apprentissage par problème, on le voit en réadaptation, en médecine, en soins infirmiers. Moi, je suis tutrice en plus ici, à l'Université de Sherbrooke, depuis quelques années. Puis, ils sont très orientés vers cette manière d'apprendre, en fait, là, qui est vraiment orientée sur des compétences cliniques et connaissances aussi théoriques qui entourent tout ça.
Ouais. C'est ça. Puis tu sais, ce qui a été fâchant dans mes études, justement, c'était toutes les modalités d'évaluation. Ça m'a été vraiment une grosse source de frustration pour moi. Pas tant parce qu'il y a des examens, là, ça va.
Ça va de soi.
Mais c'est plus par le comment, le contenu, puis la justification de certaines notes. Puis aussi, après, je me suis beaucoup questionné sur la manière d'enseigner. Parce qu'une des choses qui est démotivante dans les études en ostéo que j'ai trouvé, c'était que tu arrives, on te sert un buffet de technique pendant 8 heures, et après ça, bye. C'est plate. Désolé. Je veux dire,
manque de dynamisme.
Ça manque de dynamisme. Puis mon point à travers ça, c'est que si tu as mal appris la technique, puis que tu répètes après ça 250 fois pour couvrir tout le corps, what's the point? Fait que c'était surtout ça qui m'avait un peu démotivé à un certain point. Mais bref, je reviens un petit peu en arrière sur le contenu. Donc, tu sais, c'est sûr que ce qui m'avait fâché, c'est que quand je voyais dans un examen, par exemple, des concepts que je savais pertinemment avec mes lectures, puis que j'en étais rendu, que scientifiquement, ça n'aime pas la route, puis que ça allait faire en sorte que moi, j'étais un bon ostéopathe, puis j'allais avoir une bonne note. des fois, je regardais un examen, puis j'avais tout. Si je m'écoutais, là, j'aurais répondu probablement le contraire de tout ce qui est marqué. Parce que ça ne faisait pas le sens. Puis j'aurais pu tout backer scientifiquement mes réponses. Mais ce n'était pas, c'était pas la philosophie qu'on demandait. Alors, fait que ça crée une grosse frustration. Là, fait que là, tu sais que qu'est-ce que tu apprends, c'est pas correct. Alors, vas-y, pas correct dans un sens. Là, je pas tout qui est pas correct, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment l'exemple. Fait que là, c'est là que j'ai comme, il y a quelque chose qui marche pas. Puis après ça aussi, les barèmes de correction, c'était pas clair. Tu pouvais avoir une présentation orale. Moi, je me rappelle que j'étais gêné. Vous me croyez là ou non, j'étais gêné de citer des articles scientifiques. On me disait, ben, on n'a pas besoin de chiffres, on n'a pas besoin de données. Pourquoi tu fais ça? On sait bien, toi, tu viens d'un milieu scientifique, ou des choses comme ça. Tandis que quelqu'un d'autre à côté faisait une chanson, puis lui pouvait avoir 100%. Alors, ça a créé comme vraiment une espèce de discordance dans les barèmes d'évaluation. Ça faisait plus de sens. Après ça, il arrive la manière d'enseigner. Bon, ben, je dis pas que j'ai la solution, mais tu sais, je veux dire, l'approche par problème en est définitivement une. L'approche par cas, les case reports, aussi de questionner les élèves, faire des micro-enseignements, peu importe. Tu sais, fait qu'il y a une manière d'enseigner, je pense, là, qui doit être évolue, là. Puis, tu sais, je donne un exemple. Tu sais, si j'avais à donner un cours, parce que, bon, j'ai donné un cours en ostéopathie dans toute ma vie, alors, mais j'ai donné beaucoup plusieurs cours dans d'autres domaines. T'sais, probablement que j'aurais une approche, là, oui, par petit segment, qu'on ferait vraiment découvrir graduellement une technique. Par exemple, justement, le counter strength. Ça peut être une technique qu'on apprend.
Qu'on apprend dans les premières années.
Au début, tu apprends à trouver tes points, à bien les identifier, à bien le faire correctement. Fait que l'emphase va être un petit peu plus là-dessus. Puis après, tu développes sur les segments au lieu de faire une espèce de buffet sans fin.
Mm-hmm. Mais c'est ça, à la lumière là, de tout ce que tu as expliqué, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que tu irais plus vers le case report. Comment tu améliorerais
la programmation
des évaluations puis le contexte?
Ben, c'est ça. L'évaluation, c'est un gros débat aussi. Parce que c'est sûr, un des problèmes, c'est que. Je ne me fais pas d'amis. OK. C'est sûr que dans les écoles d'ostéo, un des problèmes, c'est que veut pas, c'est que quand on joue à l'université, c'est que les notes en soi ne veulent pas rien dire, au sens que, oui, ils vont refléter une compréhension, mais je veux dire, tu ne pourras pas prendre ta note comme modèle d'échange, par exemple, pour appliquer sur une bourse, appliquer sur un autre programme, ou bon, vous voyez un peu ce genre-là.
Ça ne montre pas la compétence.
Ça montre la connaissance,
mais pas la compétence.
Oui, ça peut montrer la compétence, mais ce que je veux dire, c'est plus que ça, c'est pas une monnaie d'échange, comme, mettons, dans un programme universitaire, que si j'ai des bonnes notes, mettons, dans un cours, mais après ça, je vais pouvoir appliquer en médecine, par exemple. Fait que, dans ce sens-là, je veux dire, ma note, elle a pas de monnaie d'échange au bout de la ligne. Fait que puis après ça aussi, même chose, si j'ai des bonnes notes à l'université, ben, je peux appliquer sur des bourses, je peux appliquer sur du financement. Mais ces notes en ostéopathie-là, ils ne se traduisent pas nécessairement par cette monnaie d'échange-là. Alors ça, en partant, ça devient rendre les choses un petit peu plus complexes. Donc ce que tu évalues, c'est vraiment une espèce d'apprentissage, de compétences, de connaissances. Puis c'est là que je pense qu'il y a des grilles, des moyens d'apprentissage qui devraient être un petit peu plus... réfléchi, je sais pas, j'ai pas la solution.
Ou exhaustive.
Ouais, exactement. Tu sais, mieux connu, mieux senti. Puis tu sais, les jeunes de nos jours, je pense que les générations changent. Puis je pense qu'ils sont plus de la génération à s'asseoir pendant des heures à écouter quelqu'un parler nécessairement. Là. Puis ça, je pense qu'il faut s'adapter aussi à cette jeunesse-là. Puis ça, c'est vraiment important aussi. Là. Puis je pense que l'ostéopathie aussi devrait dans ce sens-là. Là.
Justement, là, tu avais fait un article là, sur le portrait des ostéopathes au Québec. Si tu pouvais nous en dire plus, là, qui est en relation avec cette thématique-là de population ostéopathique. Qu'est-ce que ça disait, cet article-là, à la population présente?
Oui. Ben, écoute, le but de cet article-là, encore là, c'était, pour moi, c'était de casser des barrières. Alors, j'étais au postdoc, dans ce temps-là, à l'UQAM puis au CHM. Fait que bon, c'était vraiment un projet secondaire, c'est sûr, c'était pas un projet de primaire, mais j'ai dit bon, je suis capable de passer un projet en STO au comité d'éthique puis à science, c'était ça mon challenge. Fait que oui, ça a marché.
Ça a fonctionné.
Fait qu'on a eu ce projet. Mais bon, bref, pour revenir à ce sondage-là, c'est que, encore là, c'est quand on écrit des articles scientifiques, c'est un peu comme être un romancier, dans le sens que tu peux... explorer différents styles. Tu peux explorer la revue systématique, l'étude de cas, tu peux explorer je sais pas, la méta-analyse, peu importe. Donc, tu sais, tu as différentes formes d'écriture scientifique. Donc, la forme d'écriture scientifique de l'entrevue, que je n'étais pas du tout spécialiste, mais je ne savais pas. Alors, j'ai dit, bon, c'est un moyen pour apprendre, j'ai essayé d'écrire là-dessus. Pour apprendre, finalement, que je ne connaissais pas grand-chose pour faire des entrevues puis des sondages qui sont vraiment de haute qualité. D'ailleurs, tu sais, pour être vraiment honnête, là, l'article a été refusé dans le e-jump, justement, par quelqu'un là, qui était quand même spécialiste en sondage, puis que, tu sais, je veux dire, ils nous ont fait vraiment relever toutes les lacunes là, de ce projet-là. Mais ça demeurait quand même, tu sais, je veux dire, c'était viable, puis c'était quand même publiable. Fait qu'on a, dans la revue française, qu'on a réussi à le publier, mais bon, ça a passé pour ce que c'est. Encore là, ça vaut ce que ça vaut. C'est un portrait de l'ostéopathie à ce moment-là. Okay? Puis c'était un moment chaud aussi à l'époque. On a dû arrêter l'étude, justement, parce que dans les médias, il y a beaucoup de choses qui sortaient là, dans ce temps-là. Tu sais, c'est dans le questionnaire. Des questions qui portaient justement sur l'utilisation des techniques, entre autres HVLA ou fait que là, les chiro, c'est sûr qu'ils n'aiment pas trop ça. Alors voilà, donc tu sais, c'est ça, ça a été un peu un frein à ce projet-là, mais du moins, au bout de la ligne, ce qui est important de peut-être dire de ce projet-là, c'est que ça a été fait vraiment de manière indépendante. Fait que c'était vraiment en dehors de toutes les associations, tu sais, puis honnêtement, moi, j'ai aucune affiliation de proche, ben, peut-être plus maintenant, là, mais de proche ou de loin, avec aucune association, aucune école, tu sais, j'étais vraiment libre penseur, puis si t'es pas content, t'es pas content, là. Mais tu sais, fait qu'on a sorti les résultats tels qu'on a eu. Alors, après ça, quand on les a comparés, justement, à Ostéopathie Québec, ben, ça faisait du sens, tu sais, ça ressemblait un peu au profil, là, probablement, qui est la plus grosse association des ostéopathes au Québec. Alors, tu sais, ça tenait la route. Alors, ce qui se ressort de là, c'est juste qu'on a démontré ce qu'on discute entre nous autres, là, entre les branches. Là, c'est que, bon, justement, les ostéopathes jugent que l'ostéopathie scientifique n'est pas assez présente et assez forte au Québec. Fait que là, on l'a démontré scientifiquement. Pour les raisons pour lesquelles, souvent, c'est l'accès peut-être aussi aux revues, la vulgarisation. Non, tu sais, c'est souvent peut-être des fois aussi une question de temps, hein, parce qu'on n'a pas juste ça à faire, puis on va se le dire entre nous autres, donner un article scientifique, ça peut être terriblement plate.
Oui, ça peut être complexe, ardu, plate, on ne sait pas trop pourquoi et quand on va l'appliquer à la clinique.
Exactement. Fait que, tu sais, le lien de cause à effet n'est pas toujours là. Puis bon, fait que ça fait ressortir ça. Ça fait aussi ressortir les préférences des techniques ostéopathiques. Donc, tu sais, évidemment, sans grande surprise, on a ressorti le crânien et le viscéral qui sortait en numéro 1. D'après ça, on l'a comparé à d'autres pays. Puis après, ben, évidemment, la question se pose, mais pourquoi les deux techniques avec le
moins de support scientifique.
Oui, le moins de support scientifique, ils prennent autant de place dans un cursus académique, puis ils sont autant utilisés en clinique. D'un point de vue evidence-based, la question se pose. Je me fais pas d'amis en disant ça, mais tu sais, c'est pas d'attaquer ce que les gens ressentent en clinique. Là, c'est vraiment pas ça. Il faut vraiment faire la distinction entre ce que je ressens en clinique et la science. Là, puis même personnellement, je l'utilise, là, le crânien et le viscéral en clinique. Là, je parle souvent contre ça d'un point de vue. Non, je parle pas contre. Je donne des faits scientifiques. C'est pas que je suis contre, en fait. C'est que. Il faut trouver des nouvelles manières de démontrer ce que les gens ressentent. Puis c'est ça le point. Là, j'essaie pas d'être négatif puis de vouloir enlever ça. Là, au contraire, j'essaie juste de dire où qu'on en est. Puis bon. Non, je suis ouvert puis j'ai rien contre le crânien. Puis honnêtement, personnellement, si on me fait du crânien, j'adore ça parce que je vais m'endormir en 2 secondes. Fait que pour moi, c'est un moyen de relaxation vraiment très intense.
Mais dans un esprit un petit peu plus evidence-based medicine ou evidence-informed medicine,
ouais, exact.
Ben, c'est aussi de voir ben, qu'est-ce qui peut aider plus le patient, qu'est-ce qui peut aussi être plus en lien avec ses croyances, ses préférences, puis avec lien avec les données probantes aussi. Donc, il faut faire une espèce d'équilibre entre les trois.
Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu as un coffre à outils. Je veux dire, puis la médecine en général, c'est comme ça que ça marche. C'est quoi mon outil le plus evidence-based? Puis c'est celle-là que je vais prioriser. Mm-hmm. Puis après ça, si ça ne marche pas, bon, on verra d'autres choses, peut-être plus expérimentales. Mais là, on sait clairement que c'est les deux qui, évidemment, ça marche le moins, puis c'est ce qu'on utilise le premier. Alors, ça fait comme une espèce de paradoxe entre l'approche evidence-based et ce qu'on vit ici au Québec. Alors, tu sais, je veux dire, le point ici, c'est pas d'arrêter complètement d'utiliser, c'est peut-être juste de penser au concept, de peut-être quitter le modèle de Sutherland, de penser à d'autres avenues. Puis encore là, moi tout ce que je dis, c'est je le démontre. Puis après ça, j'entends l'argument, ah ouais, mais les études, les revues systématiques ne reflètent pas ce que moi je vis en clinique. C'est sûr que ça ne reflète jamais ce que tu vis en clinique, c'est pas ça le but non plus. Le but, c'est de voir ce que la science dit. Mais la science, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de démontrer justement cette espèce de frustration-là que les gens disent vivre en clinique, qui est indémontrable d'un point de vue scientifique pour le moment. Alors, c'est ce pont-là qui est à créer. Puis moi, comment je me vois là-dedans? Mais c'est que là, j'ai juste mis les cartes à la table. Après ça, je veux dire, c'est pas pour être négatif, c'est juste pour stimuler les gens à trouver une solution.
Mais je pense que de futurs étudiants aux études supérieures pourraient user de créativité aussi. C'est vers là qu'on veut aller, éventuellement. Exactement. Avec plus de créativité, plus de cerveaux qui pensent à développer des protocoles de recherche ou différentes avenues de recherche. Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'on va trouver différents intérêts, en fait, envers ces techniques-là. Peut-être différer le modèle, qui est peut-être désuet actuellement, sans minimiser le fait que cliniquement ou empiriquement, on peut utiliser les techniques.
Ces techniques-là ou ces approches-là, il y a des trucs qui fonctionnent.
Oui, j'en dis pas.
Il faut juste trouver qu'est-ce qui fonctionne réellement. Est-ce que c'est dans l'explication aussi, de la manière qu'on va le conceptualiser, la manière qu'on va l'expliquer? Je pense qu'il y a des bonnes choses dans ces trucs-là, mais qui sont peut-être à faire évoluer là, dans le temps.
Ben, c'est ça. Puis c'est là que une de mes pistes de solution, puis c'est là que j'invite vraiment les ostéopathes cliniciens à faire des case reports. Puis des case reports, tu n'es pas obligé, comme je disais, d'être un scientifique de haut niveau. Tu fais juste documenter ce que tu as vu d'une manière vraiment objective. Puis tu sais, je veux dire, je veux pas un case report, c'est la base. Puis une fois qu'on en a une coupe, ben on est capable, d'après ça, d'essayer de construire
des pistes de solutions.
Ben c'est ça. Fait que la personne qui va chialer sur Facebook, « Ouais, mais moi, en clinique, ça marche. » OK, mais écris un case report, là. Arrête de dire sur Facebook. Tu comprends? Fait que c'est ça qui est…
Dis-moi, ben, on a parlé beaucoup de pédagogie, on a parlé beaucoup justement des différentes pistes de solutions. Là, mais toi, là, par rapport à tes projets présents ou futurs, qu'est-ce que tu espères? Là, parce qu'il y a une partie de toi qui est clinicien quand même, qui est ostéo, il y a une partie de toi qui est chercheur. Donc, qu'est-ce que tu espères pour l'avenir dans tes projets futurs?
Écoute, ben, je vais vraiment lancer, dans l'univers, là, ce que j'aimerais le plus qui m'arrive, tu sais, ce que j'aimerais le plus, honnêtement, c'est d'avoir un poste universitaire en ostéopathie. Là, si
on souhaite.
Puis encore là, c'est pas, comme prof universitaire, c'est pour avoir certains cours, mais je me vois pas comme un enseignant nécessairement toujours pratique. Là, oui, un petit peu, là, mais je veux dire, c'est plus justement un enseignant axé sur la recherche, puis pouvoir y mettre éventuellement aller chercher des demandes de fonds, des demandes des subventions aux IRSC, aux FRSQ ou dans d'autres contextes pour aller chercher de l'argent. Puis c'est sûr que moi, mon domaine de prédilection, ça va toujours être l'ostéopathie en relation avec le sport ou la réadaptation. Fait que ça, c'est sûr que je vais quand même rester dans mon domaine d'expertise. Fait que ça, c'est ce que j'aimerais pour le futur. Alors, entre-temps, ce que j'aime, c'est de créer des questions de recherche qui vont pouvoir peut-être être applicables à la clinique ou favoriser aussi la recherche aussi au niveau de l'universitaire. Comme je prends l'exemple d'Anaïs, elle a créé son projet. Mais nous, dans notre clinique, on va essayer de recruter, d'aider son recrutement. Donc, on va être impliqué aussi activement dans la recherche au sens large de l'ostéopathie. Puis un peu comme je disais tantôt, ce qu'on peut faire réellement à ce temps-ci, c'est des case reports. Alors, c'est surtout là-dessus qu'on va travailler. Donc, ça, c'est un peu l'importance aussi d'avoir des dossiers bien montés avec des vraies données objectives précises. Alors là, avec ça, on peut faire peut-être des beaux case reports qui sont publiables. Donc, hormis ça, à long terme, j'aimerais vraiment créer mon axe de recherche en ostéopathie. Donc, en sciences et sciences d'activité physique. c'est surtout ça mon plus gros choix. Là. Je ne sais pas si ça va marcher. Là. Je sais qu'il n'y a pas d'université en ce moment. Puis un peu comme je disais tantôt, là, je me suis senti exclu de la communauté ostéopathique pendant plusieurs années. Je n'avais jamais même pas l'idée d'appliquer dans une école d'ostéopathie pour être enseignant, là, sachant qu'on allait me virer de bord. pourquoi pas peut-être un jour mettre un pied dans une école d'ostéo, ça pourrait être un bon départ aussi.
À la lumière de cette excellente fin, écoute, François, on est vraiment, encore une fois, comme notre introduction, on est vraiment contente que tu t'aies prêté au jeu de notre balado, le no-brainer. On espère que tout ce que tu as fourni, que tu nous as vulgarisé en termes d'informations, ça puisse servir à des pistes d'exploration. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Anaïs?
Ben, en fait, je te remercie surtout de t'être ouvert là, sur toutes tes réflexions à travers les différentes années. Puis, c'était vraiment super intéressant. On est tout le temps contente d'avoir des invités comme toi, puis de pouvoir voir le cheminement des différents ostéos au Québec. Là, puis aussi de réfléchir en groupe là, sur différentes questions que je pense qui brûlent les lèvres et les cerveaux de bien des ostéopathes et des étudiants en ostéopathie. Puis, je pense que ça peut faire un petit bout de chemin au niveau de la collectivité. Là.
Ouais. Okay. Puis dis-moi, François, là, en terminant, là, si les gens ils sont intéressés à suivre là, ta progression en termes de travaux, etc., là, par quel média ils pourraient le faire?
Oui, ben ça, écoute, honnêtement, le meilleur média que je trouve et que les associés devraient trouver, c'est ResearchGate. Donc, c'est comme un média social que les chercheurs partagent leur projet de recherche. Sur ResearchGate, ce qui est intéressant, justement, c'est justement de mon projet de recherche sur le questionnaire, c'est qu'on disait qu'il n'y avait pas assez d'accès à la littérature scientifique. Mais sur ResearchGate, si tu contactes l'auteur, il peut te renvoyer
son manuscrit, en fait.
Exactement. Fait. Puis moi, tous mes articles, pour la majorité, je les donne gratuitement. Alors, ceux qui me suivent sur ResearchGate, ben, vous avez accès à toutes mes publications publiées par les pairs, donc scientifiques.
Promettre un lien au pire de ResearchGate.
Oui, ResearchGate, je pense que ce serait vraiment ça la meilleure chose, parce que là, c'est vraiment scientifique, puis c'est pas un média social non plus que tu es comme…
un média d'opinion.
Non, c'est ça, fait qu'il n'y a pas d'opinion, là, je veux dire, les gens vont voir ce qu'ils ont, ils vont chercher les articles, puis ça finit là, je veux dire, c'est bien correct, là, c'est ça le but. Alors, je pense que c'est là le meilleur moyen de me rejoindre. Sinon, pour le moment, je vais peut-être suivre aussi ce qu'on va faire peut-être à la clinique Stadium Physio-Ostéo. Je suis toujours prof associé aussi à l'UQAM en ce moment, donc j'ai une étudiante en ce moment qui termine un projet de maîtrise, là, mais ça c'est plus au niveau de la défense nationale, donc c'est plus un projet là, avec les habitudes de vie là, de manière générale. Mais bon, ça reste que c'est ça. Puis j'ai d'autres projets là, en ostéopathie là, qui vont peut-être émerger super. J'ai beaucoup d'idées en tête, là, évidemment. Puis encore, c'est toujours de trouver la bonne équipe, les bons partners, puis le bon temps de le faire. Moi aussi, ouais.
Ben, merci François.